Juan Diego éprouvait une affection durable pour Clark French. L'homme était un lecteur infatigable qui retenait les détails les plus marquants, de ces détails que les écrivains n'enregistrent que dans leur propre œuvre, en général. Seulement, Clark ne se rappelait pas toujours en quoi ces détails étaient censés affecter le lecteur. Dans le roman de Juan Diego, le protagoniste était très perturbé par les drames subaquatiques qui se jouaient dans l'aquarium au chevet du lit. Les poissons l'empêchaient de dormir. Le directeur de l'hôtel expliqua à Juan Diego que l'aquarium éclairé et gargouillant avait été prêté pour la nuit par la famille philippine de Clark French. Une de ses tantes par alliance possédait en effet une animalerie avec des spécimens exotiques à Makati. L'aquarium était trop lourd pour qu'on l'installe sur une table. On l'avait donc posé à même le sol au chevet du lit, où il trônait, immuable, et presque aussi haut que lui. Ce parallèle épipède, théâtre d'une activité sinistre, était cependant accompagné d'un mot de bienvenue. Retrouver des détails familiers vous aidera à dormir. Toutes ces créatures viennent de la mer de Chine, signala le directeur pour mettre Juan Diego en garde. Ne leur donnez pas à manger, elles peuvent rester à jeun une nuit. Je vois, répondit Juan Diego qui se demandait comment Clark ou sa tante philippine propriétaire d'une animalerie pouvait avoir imaginé que l'aquarium aurait un effet calmant sur qui que ce soit. Il devait contenir une centaine de litres d'eau. La nuit tombée, la lumière verdâtre serait encore plus verte et plus intense. Du menu fretin, trop vif pour se laisser décrire, bondissait furtivement vers la surface. Une créature plus imposante demeurait tapie dans l'obscurité des fonds, où l'on voyait luire ses yeux et onduler ses nageoires. « C'est une anguille ?» s'enquit Juan Diego. Le directeur de l'hôtel était un petit homme à la mise impeccable, qui portait une moustache taillée avec un soin maniaque. « Ça pourrait bien être une murène. Ne vous avisez pas de tremper le doigt dans l'eau. »« Non, non, c'est une anguille, à coup sûr !» répondit Juan Diego. Tout d'abord, il avait regretté d'avoir accepté que le chauffeur le conduise dans un restaurant ce soir-là. Il aurait préféré dîner dans sa chambre et se coucher de bonne heure. Mais l'homme l'avait convaincu. Il s'agissait d'un établissement très familial, où il n'y aurait pas de touristes, un secret bien gardé à Manille. Finalement, il était soulagé qu'on l'emmène loin du Shangri-La. Ces poissons insolites et cette anguille patibulaire attendraient son retour. Il aurait préféré dormir avec le labrador croisé nommé James. Le post-scriptum du message de Clark French disait ceci. « Vous êtes entre de bonnes mains avec Bienvenido. À Bohol, tout le monde se réjouit de votre arrivée. Ma famille au grand complet a hâte de faire votre connaissance. Tante Carmen me dit que la murène se nomme Morales. Surtout n'y touchez pas. » Du temps qu'il était étudiant, de troisième cycle, Clark French avait eu besoin d'un défenseur et Juan Diego l'avait protégé. La fougue et l'optimisme à toute épreuve du jeune écrivain allaient à contre-courant des positions adoptées par ses condisciples. « C'est bel et bien une murène, » dit Juan Diego, directeur de l'hôtel. « Elle s'appelle Morales. »« Ça ne manque pas d'ironie d'avoir baptisé Morales Bonne Mœurs une murène vorace. » La boutique a dépêché une équipe pour monter l'aquarium. Il a fallu deux chariots à bagages pour transporter les conteneurs d'eau de mer. Le thermomètre est très délicat et le système de filtration a eu un problème de bulle. On a dû déplacer les poissons à la main dans des sachets en plastique. C'est beaucoup de cinéma pour un séjour d'une nuit. Ils ont peut-être mis la murène sous sédatif pour lui épargner le stress du voyage. Pour l'heure, Dame Morales ne semblait aucunement sous sédatif. Lovée, prête à l'attaque au fond de l'aquarium, elle respirait régulièrement, ses yeux jaunâtres grands ouverts. Du temps de l'atelier d'écriture à la fac de l'Iowa, et plus tard, lorsqu'il avait publié ses romans, Clark French ignorait l'ironie. Sa sincérité et son sérieux étaient sans faille. Cette ironie devait donc être celle de Tante Carmen dans la belle famille philippine de Clark. Juan Diego avait le trac à l'idée qu'ils l'attendent tous à Bohol. Mais d'un autre côté, il se réjouissait que Clark, garçon apparemment sans amis, ait trouvé une famille. Ses condisciples, comme lui, apprentis écrivains, l'avaient jugé d'une naïveté indécrottable. On n'a pas idée pour un jeune romancier d'avoir la fibre solaire. Clark était dans la pensée positive à un point improbable. À part ça, beau gosse, visage d'acteur, corps d'athlète, fagoté dans d'abominables complets dignes d'un témoin de Jéhovah. Ses convictions religieuses, il était très catholique, rappelait sans nul doute Edward Bonshaw à Juan Diego. Du reste, Clark French avait rencontré son épouse et toute sa famille, comme il disait avec enthousiasme, au cours d'une mission caritative aux Philippines dont Juan Diego avait oublié les circonstances précises, bonnes œuvres concernant des orphelins et des mères célibataires. Ses romans eux-mêmes étaient pavés de bonnes intentions opiniâtres, voire militantes. Ses protagonistes, âmes perdues et pêcheurs en série, trouvaient toujours la rédemption. Et l'acte qui les rachetait suivait en général un nadir moral, pour permettre au roman de s'achever dans une apothéose de bons sentiments. On le devine, ses œuvres prêtaient le flanc à la critique. Il avait tendance au prêchi-prêcha, il évangélisait au fil des pages. Juan Diego s'affligeait de voir son œuvre méprisée comme il avait vu sa personne moquée par ses camarades du temps de la fac. Car lui aimait bien la prose de Clark, c'était un styliste. Mais son drame, c'était cette gentillesse exaspérante. Il le savait sincère par ailleurs, un chic type, authentique. Seulement il prêchait, c'était plus fort que lui. Une apothéose de bons sentiments après un creux de la vague morale, recette efficace, mais est-ce que ça marche sur le lecteur croyant? Fallait-il mépriser Clark au seul titre qu'il avait des lecteurs? Était-ce sa faute s'il était édifiant, mortellement édifiant, avait dit un de ses condisciples de la fac. Tout de même, cet aquarium pour une seule nuit, il s'était surpassé. Il avait fait du Clark French. Je suis peut-être trop fatigué par le voyage pour apprécier le geste. Juan Diego s'en voulait de reprocher à Clark French d'être ce qu'il était, d'avoir la bonté chevillée au corps. Il l'aimait sincèrement, son ancien élève, et pourtant cette affection le tourmentait. Clark était un catholique invétéré. Un coup de queue désordonné et une gerbe d'eau de mer tiède firent sursauter Juan Diego et le directeur de l'hôtel. Est-ce qu'un malheureux poisson venait de se faire oxyre ou dévorer? L'eau d'une rare clarté dans sa lueur verte ne révélait aucune trace de sang ou de fragments de chair. Quant à la murène aux aguets, on lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Nous vivons dans un monde de violence, conclut le directeur. C'était, ironie en plus, une phrase qu'on aurait pu rencontrer au creux de la vague morale dans un roman de Clark French. Oui, se borna à répondre Juan Diego. Lui qui était né dans le ruisseau s'en voulait toujours quand il regardait autrui de haut, surtout lorsqu'il s'agissait d'une bonne personne comme Clark French. Or, il le regardait avec cette condescendance que tous lui manifestaient dans la République des Lettres, parce qu'il était édifiant. Une fois le directeur parti, il s'aperçut avec contrariété qu'il avait oublié de lui demander comment fonctionnait l'air conditionné. Il faisait trop froid dans la chambre. Le thermostat fixé sur le mur offrait au voyageur là un tableau cabalistique de flèches et de chiffres. Juan Diego se serait cru dans le cockpit d'un avion de chasse. Mais qu'est-ce que j'ai à être fatigué comme ça, se disait-il. Pourquoi est-ce que je ne pense qu'à dormir, rêver, ou bien revoir Myriam et Dorothy? Il s'offrit un somme impromptu, cette fois sur le fauteuil du bureau. Il se réveilla frigorifié. Il n'y avait pas lieu de défaire son immense sac orange pour une nuit. Il posa ses bêta-bloquants sur le lavabo de la salle de bain pour éviter d'absorber le double de la dose prescrite. Il étala ses vêtements sur le lit, prit une douche et se rasa. Sans Myriam et Dorothy, sa vie de voyageur ressemblait à s'y méprendre à sa vie quotidienne. Et pourtant, voilà qu'elle lui apparaissait soudain vide et sans but en leur absence. Pourquoi donc? Se demanda-t-il tout en s'interrogeant sur sa fatigue. Il regarda les infos à la télévision dans le peignoir de bain de l'hôtel. L'air était toujours aussi glacial. Mais à force de tripoter le thermostat, il avait au moins réussi à réduire la vitesse de la ventilation. Ces malheureux poissons n'étaient-ils pas des spécimens des mers chaudes, murènes comprises? La télévision diffusait une vidéo assez floue, prise par une caméra de surveillance du kamikaze de Mindanao. Il n'était pas reconnaissable, mais sa façon de boiter ressemblait de manière troublante à celle de Juan Diego. Ce dernier traquait la moindre différence, mais c'était la même jambe, la droite, qui avait souffert lorsque l'explosion oblitéra tout. Il y eut comme un déclic, et l'écran vira au noir avec un bruit de déchirure. La séquence laissa à Juan Diego l'impression perturbante d'avoir assisté à son propre suicide. Il nota qu'il y avait assez de glace dans le seau